Chapitre 7. Catan. L'aspect de Taormin nous plongea en extase. À notre gauche, et ornant l'horizon, s'élevait l'Etna, cette colonne du ciel, comme l'appelle Pindare, découpant sa masse violette dans une atmosphère rougeâtre, tout imprégnée des rayons naissants du soleil. Au second plan, en se rapprochant de nous, étaient accroupies, au pied du géant, deux montagnes fauves, qu'on eût dit recouvertes d'une immense peau de lion, tandis que devant nous, au fond d'une petite crique et se dégageant à peine de l'ombre, s'élevait au bord de la mer, pareil à un miroir d'acier bruni, quelques chétives maisons dominées à droite par l'ancienne ville naxienne de Tauromenium. La ville est dominée elle-même par une montagne, ou plutôt par un pic au haut duquel se groupe et se dresse le village sarrasin de la Maule, auquel on n'arrive que par une échelle de pierre. Lorsque nous eûmes bien considéré ce spectacle si grand, si magnifique, si splendide, que Jadin ne pensa pas même à en faire une esquisse, nous nous retournâmes vers l'est. Le soleil se levait lentement et majestueusement derrière la pointe de la Calabre, et enflammait le sommet de ces montagnes tandis que tout leur versant occidental demeurait dans la demi-teinte, et que dans cette demi-teinte, on distinguait les crevasses, les vallées et les ravins, à leurs ombres plus foncées, et les villes et les villages, au contraire, à leurs teintes blanches et mates. À mesure qu'ils s'élevaient dans le ciel, tout changeait de couleur, montagnes et maisons. La mer brune devint éclatante, et lorsque nous nous retournâmes, le premier paysage que nous avions vu avait perdu lui-même sa teinte fantastique pour entrer dans sa puissante et majestueuse réalité. Nous mîmes pied à terre, et après une montée d'une demi-heure, assez rapide, et par un chemin étroit et pierreux, nous arrivâmes aux murailles de la ville, composées de laves noires, de pierres jaunâtres et de briques rouges. Quoiqu'au premier aspect la ville semble mauresque, l'ogive de la porte est normande. Nous la franchîmes, et nous nous trouvâmes dans une rue sale et étroite, aboutissant à une place au milieu de laquelle s'élève une fontaine surmontée d'une étrange statue. C'est un buste d'ange du XIVe siècle greffé sur le corps d'un taureau antique. L'ange est de marbre blanc et le taureau de granit rouge. L'ange tient de la main gauche un globe dans lequel on a planté une croix et de l'autre un sceptre. Une église placée en face présente deux ornements remarquables. D'abord, les six colonnes en marbre qui la soutiennent, ensuite les deux lions gothiques qui, couchés au pied des fonts baptismaux, supportent les armes de la ville, qui sont une centauresse. Cette seconde sculpture donne l'explication de celle de la place. En sortant de l'église, nous rencontrâmes un malheureux qui, de son état, était ailleurs, et que la munificence du roi de Naples avait élevé aux fonctions de cicérone. Au premier mot que nous échangeâmes avec lui, nous vîmes à qui nous avions affaire. Mais comme nous avions besoin d'un guide, nous le prîmes à ce titre, afin de ne pas être volé. En effet, il nous conduisit assez directement au théâtre, tout en nous faisant passer devant une maison qu'une ceinture de lettres gothiques faisant corniche désignait comme ayant servi de retraite à Jean d'Aragon après la défaite de son armée par les Français. À 80 pas de cette maison à peu près, sont les ruines d'un couvent de femmes, dont il ne reste qu'une tour carrée, percée de trois fenêtres gothiques et dominée par un mur de rochers, au pied duquel poussent des grenadiers, des orangers et des lauriers roses. Du pied de ce groupe d'arbres s'élancent deux palmiers qui donnent à toute cette petite fabrique un air africain, qui ne manque pas d'une certaine apparence de réalité, sous un soleil de 35 degrés. Nous arrivâmes enfin aux ruines du théâtre. Avant qu'on eût découvert ceux de Pompéi et d'Herculanum, et quand on ne connaissait pas celui d'Orange, c'était, disait-on, le mieux conservé. Comme à Orange, on a profité de l'accident du terrain en faisant une scission demi-circulaire dans une montagne pour tailler dans le granit les degrés sur lesquels étaient assis les spectateurs. Le théâtre de Tauromenium pouvait en contenir 25 000. Au reste, ce théâtre bâti en briques n'offre que des ruines sans grandeur. Le voyageur venu là pour visiter ces ruines s'assied et ne voit plus que l'immense horizon qui se déroule devant lui. En effet, à droite, l'Etna se développe dans toute l'immensité de sa base, qui qui a 70 lieues de tour, et dans toute la majesté de sa taille, qui a 10 600 pieds de hauteur, c'est-à-dire 2000 pieds de moins seulement que le Mont Blanc, et 6 200 pieds de plus que le Vésuve. À gauche, la chaîne des Apennins va s'abaissant derrière Reggio, et, pareil à un taureau agenouillé, étend sa tête et présente ses cornes à la mer, qui se brise au cap des larmes. À l'horizon, la mer et le ciel se confondent. Puis, en ramenant par la droite ses regards de l'horizon le plus éloigné à la base du théâtre, on découvre un rivage échancré de ports, tout parsemé de villes et de villes qui s'appellent Syracuse, Augusta et Catane. Quand on a vu ce magnifique spectacle une heure, la curiosité, je l'avoue, manque pour tout le reste. Aussi, fût-ce par acquis de conscience que, pendant que Jadin faisait un croquis du théâtre et du paysage, je visitais la Nomachie, les piscines, les bains, le temple d'Apollon et le faubourg de Rabat. Mot sarrasin qui constate l'occupation arabe en lui survivant. Après 2 heures de course dans les rochers, les vignes et qui pisaient dans les rues de Taormine, après avoir compté 55 couvents, tant d'hommes que de femmes, ce qui me parut fort raisonnable pour une population de 4500 âmes, je revins à Jadin, tourmenté d'une faim féroce, et le retrouvai dans une disposition qui, malgré sa maladie récente, ne le cédait en rien à la mienne. Comme il ne me restait à visiter pour compléter mon excursion archéologique, que la voie des tombeaux, et que la voie des tombeaux était juste au-dessous de nous, au lieu de retraverser toute la ville, nous descendîmes, moitié glissant, moitié roulant, par une espèce de précipice couvert d'herbes desséchées, sur lesquelles il était aussi difficile de se maintenir que sur la glace. Contre toute attente, nous arrivâmes au bas sans accident, et nous nous trouvâmes sur la voie sépulcrale. C'est le même système d'enterrement que dans les catacombes. Des sépulcres de 6 pieds de long et de 4 pieds de profondeur sont creusés horizontalement, et de petits murs, en façon de contrefort, séparent ces propriétés mortuaires les unes des autres. Il y a 4 étages de tombeaux. On comprend qu'il n'était nullement question de déjeuner dans les infâmes bouges qui s'élèvent, sous le nom de maison, au bord de la mer. Nous fîmes signe au capitaine, que nous reconnaissions sur le pont, et qui ne nous avait pas perdu de vue, de nous envoyer la chaloupe. Nous soldâmes notre cicérone et nous retournâmes à bord. Décidément, Giovanni était un grand homme. Il avait deviné qu'après une excursion de 5 heures dans des régions fort apéritives, nous ne pouvions manquer d'avoir faim. En conséquence, il s'était mis à l'œuvre et notre déjeuner était prêt. Voyageurs qui voyageaient en Sicile, au nom du ciel, prenez un spironard. Avec un spironard surtout, si cela est possible, celui de mon ami le capitaine Arena, dans lequel on est mieux que dans aucun autre. Avec un spironard, vous mangerez toutes les fois que vous n'aurez pas le mal de mer. Dans les auberges, vous ne mangerez jamais. Et que l'on prenne ceci à la lettre. En Sicile, on ne mange que ce qu'on y porte. En Sicile, ce ne sont point les aubergistes qui nourrissent les voyageurs. Ce sont les voyageurs qui nourrissent les aubergistes. En attendant, et tandis que le capitaine allait chercher à terre sa patente, nous fîmes un excellent déjeuner. À midi, le capitaine étant de retour, nous levâmes l'ancre. Nous avions un joli vent qui nous permettait de faire 2 lieues à l'heure, de sorte qu'au bout de 3 heures à peu près, nous nous trouvâmes à la hauteur d'Acireal, où j'avais dit au capitaine que je comptais m'arrêter. En conséquence, il mit le cap sur une espèce de petite crique d'où partait un chemin en zigzag qui conduisait à la ville, laquelle domine la mer d'une hauteur de 300 à 400 pieds. Ce fut une nouvelle patente à prendre, et un retard d'1 heure à souffrir, après quoi nous fûmes autorisés à nous rendre à la ville. Jadin me suivit de confiance sans savoir ce que j'allais y faire. Hachi me parut assez belle et assez régulièrement bâtie. Ses murailles lui donnent un petit air formidable dont elle semble toute fière. Mais je n'étais pas venu pour voir des murailles et des maisons. Je cherchais quelque chose de mieux. Je cherchais le fils de Neptune et de tout ça. Je pensais bien qu'il ne viendrait pas au-devant de moi. Je m'adressais à un monsieur qui suivait la rue dans un sens opposé au mien. J'allai donc à lui. Il me reconnut pour étranger, et pensant que j'avais quelques renseignements à lui demander, il s'arrêta. « Monsieur, lui dis-je, pourrais-je sans indiscrétion vous demander le chemin de la grotte de Polyphème ?»« Le chemin de la grotte de Polyphème ? Oh oh !» dit le monsieur en me regardant. « Le chemin de la grotte de Polyphème ? Oui, monsieur. Vous vous êtes trompé, monsieur. De 3/4 de lieue à peu près. C'est au-dessous d'ici, en allant à Catane. Vous reconnaîtrez le port aux 4 roches qui s'avancent dans la mer et que Virgile appelle Cyclopea Saxa et Pline Scopuli Sidopum. Vous mettrez pied à terre dans le port d'Ulysse. Vous marcherez en droite ligne en tournant le dos à la mer. Et entre le village d'Acci San Filippo et celui de Nizetti, vous trouverez la grotte de Polyphème. Le monsieur me salua et continua son chemin. Eh bien, mais voilà un monsieur qui me semble posséder assez bien son cyclope, me dit Jadin. Et ses renseignements me paraissent positifs. Aussi, à moins que vous n'ayez quelque chose de particulier à faire ici, nous retournerons à bord, si vous le voulez bien. Apprenez, mon cher, me dit Jadin, que je n'ai rien à faire là où il y a 40 degrés de chaleur, que je ne suis venu que pour vous suivre, et que désormais, quand vous ne serez pas plus sûr de vos adresses, vous me rendrez service de nous laisser où nous serons, moi et Milord. N'est-ce pas, Milord ? Milord tira d'un demi-pied une langue rouge comme du feu, ce qui, joint à la manière active dont il se mit à souffler, me prouva qu'il était exactement de l'avis de son maître. Nous redescendîmes vers la mer et nous nous rembarquâmes. Au bout d'une demi-heure, je reconnus parfaitement à ces 4 rochers cyclopéens le lieu indiqué. D'ailleurs, je demandai au capitaine si la rade que je voyais était bien le port d'Ulysse, et il me répondit affirmativement. Nous jetâmes l'ancre au même endroit que l'avait fait Héné. Telle est la puissance du génie, qu'après 3000 ans, ce port a conservé le nom que lui a donné Homère, et que là, pour les paysans, l'histoire d'Ulysse et de ses compagnons, perpétuée comme une tradition, non seulement à travers les siècles, mais encore à travers les dominations successives des Sicaniens d'Espagne, des Carthaginois, des Romains, des empereurs grecs, des Goths, des Sarrasins, des Normands, des Angevins, des Aragonais, des Autrichiens, des Bourbons de France et des Ducs de Savoie, semblent aussi vivantes que le sont pour nous les traditions les plus nationales du Moyen-Âge. Aussi le premier enfant auquel je demandais la grotte de Polyphème se mit à courir devant moi pour me montrer le chemin. Quant à Jadin, au lieu de me suivre, il se jeta galamment à la mer, sous le prétexte d'y chercher Galatée. Au reste, on retrouve tout, avec des proportions moins gigantesques sans doute que dans les poèmes d'Homère, de Virgile et d'Ovide. Mais la grotte de Polyphème et de Galatée est encore là après 30 siècles. Le rocher qui écrasa Assis est là, couvert et protégé par une forteresse normande qui a pris son nom. Assis, il est vrai, fut changé en un fleuve qu'on appelle aujourd'hui le Acqua Grandi, et que je cherchais vainement. Mais on me montra son lit, ce qui revenait au même. Je supposais qu'il était allé coucher autre part, voilà tout. Quand il fait 35 à 40 degrés de chaleur, il ne faut pas être trop sévère sur la moralité des fleuves. Je cherchais aussi la forêt, dont Énée vit sortir le malheureux Achéménide, oublié par Ulysse, et qu'il recueillit, quoique grec. Mais la forêt a disparu, ou à peu près. La nuit commençait à descendre et le soleil que j'avais vu lever derrière la Calabre disparaissait peu à peu derrière l'Etna. Un coup de fusil tiré à bord du Spéronard et qui me parut s'adresser à moi me rappela que, passé une certaine heure, on ne pouvait plus s'embarquer. Je me souciais peu de coucher dans une grotte, fût-ce dans celle de Galatée. D'ailleurs, je ressemblais trop peu au portrait du beau berger Assis pour qu'elle s'y trompât. Je repris le chemin du Spéronard. Je trouvais Jadin furieux. Le dîner était brûlé, il m'assurait que si je continuais à avoir aussi mauvaise compagnie que les cyclopes, les néréides et les bergers, il se séparerait de moi et voyagerait de son côté. Nous étions écrasés de fatigue. Entre Taormine, Assiréal et le port d'Ulysse, nous avions fait une rude journée. Aussi la veillée ne fut pas longue. Le souper fini, nous nous jetâmes sur nos lits et nous endormîmes. Notre réveil fut moins pittoresque que la veille. Je me crus en face d'une église tendue de noir pour un enterrement. Nous étions dans le port de Catane. Catane se lève comme une île entre deux rivières de lave. La plus ancienne et qui enveloppe sa droite est de 1381. La plus moderne et qui presse sa gauche est de 1669. Saisie par l'eau, qu'elle a commencé par refouler à la distance d'un quart de lieue, cette lave a enfin fini par se refroidir comme une immense falaise pleine d'excavations bizarres et sombres, qui semble autant de porches de l'enfer et qui, par un contraste bizarre, sont toutes peuplées de colombes et d'hirondelles. Quant au fond du port, il a été comblé, et les petits bâtiments, seuls, peuvent maintenant y entrer. Pendant que le capitaine allait prendre patente, nous montâmes dans la barque, et nos fusils à la main, nous allâmes faire une excursion sous ses voûtes. Il en résulta la mort de 5 ou 6 colombes, qui furent destinées à servir de rôti à notre dîner. Le capitaine revint avec notre permission d'aller à terre. Nous en profitâmes aussitôt, car je comptais employer la journée du lendemain et du surlendemain à gravir l'Etna, ce qui, au dire des gens du pays même, n'est point une petite affaire. 10 minutes après, nous étions à la Corona d'Oro, chez le seigneur Abate, que je cite par reconnaissance. Contre l'habitude, nous trouvâmes quelque chose à manger chez lui. Catane fut fondée, suivant Thucydide, par les Chalcidiens, et selon quelques autres auteurs, par les Phéniciens, à une époque où les éruptions de l'Etna étaient non seulement rares, mais encore ignorées, puisque Homère, en parlant de cette montagne, ne dit nulle part que ce soit un volcan. 300 ou 400 ans après sa fondation, les fondateurs de la ville en furent chassés par Phalaris, celui, on se le rappelle, qui avait eu l'heureuse imagination de mettre ses sujets dans un taureau d'airain, qu'il faisait ensuite rougir à petit feu, et qui, juste une fois dans sa vie, commença l'expérience par celui qui l'avait inventé. Phalaris mort, Gélon se rendit maître de Catane, et, mécontent de son nom, qui en supposant qu'il soit tiré du mot phénicien « caton », veut dire « petite », il lui substitua celui d'Etna, peut-être pour la recommander par cette flatterie à son terrible parrain, qui à cette époque commençait à se réveiller de son long sommeil. Mais bientôt les anciens habitants, chassés par Phalaris, étant revenus dans leur patrie, grâce aux victoires de Ducetius, roi de Sicile, la religion du souvenir l'emporta, et ils lui rendirent son premier nom. Ce fut alors que les Athéniens rêvèrent de conquérir cette Sicile qui devait être leur tombeau. Alcibiade les commandait. Sa réputation de beauté, de galanterie et d'éloquence marchait devant lui. Il arriva devant Catane et demanda à être introduit seul dans la ville et à parler aux Catanais. Peut-être, s'il n'y eut que les Catanais, sa demande lui eût-elle été refusée. Mais les Catanaises insistèrent. On conduisit Alcibiade au cirque. Et tout le monde s'y rendit. Là, l'élève de Socrate commença une de ces harangues ioniennes, si douces, si flatteuses, si éloquentes, si terribles, si colorées, si menaçantes. Aussi les gardes des portes eux-mêmes abandonnèrent leur poste pour venir l'écouter. C'est ce qu'avait prévu Alcibiade, qui ne prêchait point par excès de modestie. Et c'est ce dont profita Nicias, son lieutenant. Il entra avec la flotte athénienne dans le port, qui, à cette époque, n'était point comblé par la lave, et s'empara de la ville sans que personne s'y opposât. 50 ou 60 ans plus tard, Denis l'Ancien, qui venait de traiter avec Carthage et de soumettre Syracuse, atteignit le même but, non point par l'éloquence, mais par la force. Marmecus, mauvais poète tragique et tyran médiocre, lui succéda, fournissant à la postérité des sujets de drame dont Timéléon devait être le héros. Puis vinrent les Romains, ces grands envahisseurs qui apparurent à leur tour vers l'an 549 de la fondation, et qui commencèrent par piller. Valérius Messala fut, sous ce point de vue, le prédécesseur de Verrès. Seulement, du temps de Valérius Messala, on pillait pour la République, tandis que du temps de Verès, la chose s'était perfectionnée et on pillait pour soi. Le vainqueur envoya donc les dépouilles à Rome. C'était encore la Rome pauvre, la Rome de terre et de chaume. Aussi fut-elle un peu plus sensible au présent. Il y avait surtout dans le butin une horloge solaire que l'on plaça près de la colonne rostrale et à laquelle, pendant un demi-siècle, le peuple roi vint regarder l'heure avec admiration. Chacune de ces heures était alors comptée par des conquêtes. Ces conquêtes enrichissaient Rome, et Rome commençait à devenir généreuse. Marcellus résolut alors de faire oublier aux Siciliens la façon dont les Romains avaient débuté avec eux. Marcellus avait la rage de bâtir. Il bâtissait partout où il se trouvait, des fontaines, des aqueducs, des théâtres. Catane avait déjà deux théâtres. Marcellus y ajouta un gymnase, et probablement des bains. Aussi, Verès trouva-t-il la ville dans un état assez florissant pour qu'il daignât jeter les yeux sur elle. Il s'informa de ce qu'il y avait de mieux dans ce qu'y avait laissé Messalin et dans ce qu'y avait ajouté Marcellus. On lui parla d'un temple de Cérès, bâti en lave et élevé hors de la ville, lequel renfermait une magnifique statue, connue seulement des femmes, car il était défendu aux hommes d'entrer dans ce temple. Verès, qui de sa nature était peu galant, prétendit que les femmes avaient déjà bien assez de privilèges sans qu'on respectât encore celui-là, puis il entra dans le temple et prit la statue. Quelque temps après, Sextus Pompée pilla Catane à son tour, sous prétexte qu'elle avait été fort tiède pour son père dans ses discussions avec César, de sorte qu'il était grand temps que vint Auguste, lorsque effectivement Auguste vint. Celui-là, c'était le réédificateur général et le pacificateur universel. Dans sa jeunesse, emporté par l'exemple, il avait bien proscrit quelque peu pour faire comme Lépide et Antoine. Mais il avait pris de l'âge, s'était fait nommer tribun du peuple et non pas impérator, comme le disaient les républicains du temps. Il aimait les bucoliques, les géorgiques et les idylles, les chants des bergers, les combats de flûte, et le murmure des ruisseaux. C'était enfin le dieu qui faisait le repos du monde. Catane ressentit les bienfaits de ce doux règne. Auguste releva ses murs et lui envoya une colonie qui, sous Théodose encore, était restée une des plus florissantes de la Sicile. Mais, à partir de la mort de ce dernier, les tribulations de Catane recommencèrent. Les Grecs, les Sarrasins et les Normands se succédèrent les uns aux autres, et la traitèrent à peu près comme avaient fait Messala, Verès et Sextus Pompée. Enfin, pour couronner toutes ces dépradations successives, un tremblement de terre, arrivé en 1169, la renversa sans lui laisser une seule maison. 15 000 habitants y périrent. Le tremblement de terre calmé, ceux qui s'étaient sauvés revinrent à leur ruine comme des oiseaux à leur nid. Et avec l'aide de Guillaume le Bon, reconstruisirent une ville nouvelle. Elle était à peine sur pied que Henri VI, dans un moment de mauvaise humeur, y mit le feu et passa les habitants au fil de l'épée. Heureusement, il s'en sauva quelques-uns. Ceux qui avaient échappé au père conspirèrent contre le fils. Frédéric Barberousse était dans les principes de son digne père. Il rebrûla Déréchef et repassa de nouveau au fil de l'épée. Après Henri et Frédéric, il n'y avait de pis que la peste. Elle vint en 1348 et dépeupla Catane. Cette ville commençait enfin à se remettre de tous les fléaux successifs qui l'avaient dévastée lorsqu'en 1669, un fleuve de lave de 10 lieues de longueur et d'une lieue de large sortit du Monte Rosso, descendu jusqu'à elle, couvrant 3 villages dans sa course et la sapant dans sa base, la poussa dans son port qu'il combla avec ses ruines. Voilà l'histoire de Catane pendant 26 siècles, et cependant la ville, obstinée, a constamment repoussé au même endroit, enfonçant chaque fois davantage dans ce sol mouvant et infidèle, ses racines de pierre. Il y a plus. Catane est, avec Messine, la ville la plus riche de Sicile. Aussitôt le déjeuner terminé, nous nous mîmes en route à travers la ville. Notre cicérone nous mena tout droit à ces deux places. J'ai remarqué que ce sont les places que les cicérones vous font généralement voir tout d'abord. Je leur en sais gré, en ce qu'une fois on les a vues, on en est débarrassé. Les places de Catane sont, comme toutes les places, de grands espaces vides entourés de maisons. Plus l'espace est grand, plus la place est belle. C'est convenu dans tous les pays du monde. Une de ces places est entourée d'insignifiantes constructions. Je ne sais pas comment s'appellent ces sortes de fabriques. Ce ne sont point des maisons, ce ne sont point des monuments. On prétend que ce sont des palais, grand bien leur fasse. L'autre place est un peu plus pittoresque, en ce qu'elle est un peu plus irrégulière. Au milieu s'élève une fontaine de marbre, surmontée d'un éléphant de lave, qui porte lui-même sur son dos un obélisque de granit. Cet obélisque est-il ou n'est-il pas égyptien? Telle est la grave question qui partage les archéologues de la Sicile. Tel qu'il est, égyptien ou non. Un point sur lequel il n'y a pas de conteste, c'est qu'il servait de spine au cirque découvert en 1820. Ce fut sur cette place que je demandai à mon guide s'il connaissait Monsieur Bellini, père. À cette demande, il se retourna vivement et me montra un vieillard qui passait dans une petite voiture attelée d'un cheval. « Tenez, me dit-il, le voilà qui va à la campagne. » Je courus à la voiture, que j'arrêtai, pensant qu'on n'est jamais indiscret quand on parle à un père de son fils, et d'un fils comme celui-là surtout. En effet, au premier mot que je lui en dis, le vieillard me prit les mains en me demandant s'il était bien vrai que je le connusse. Alors je tirai de mon portefeuille une lettre de recommandation qu'au moment de mon départ de Paris, Bellini m'avait donnée pour la duchesse de Noggia, et je lui demandai s'il connaissait cette écriture. Le pauvre père ne me répondit qu'en me la prenant des mains et en baisant l'adresse, puis se retournant de mon côté. « Oh, c'est que vous ne savez pas, dit-il, comme il est bon pour moi. Nous ne sommes pas riches. Eh bien, à chaque succès, je vois arriver un souvenir de lui. Et chaque souvenir a pour but de donner un peu d'aisance et de bonheur à ma vieillesse. Si vous veniez chez moi, je vous montrerais une foule de choses que je dois à sa piété. » Chacun de ces succès traverse les mers et m'apporte un bien-être nouveau. Cette montre, c'est de Norma. Cette petite voiture et ce cheval, c'est une partie du produit des puritains. Dans chaque lettre qu'il m'écrit, il me dit toujours qu'il viendra. Mais il y a si loin de Paris à Catane que je ne crois pas à cette promesse et que j'ai bien peur de mourir sans le revoir. Vous le reverrez, vous. Mais oui, répondis-je, car je croyais le revoir. Et si vous avez quelques commissions pour lui? Non, que lui enverrai-je, moi? Ma bénédiction, pauvre enfant. Je la lui donne le matin et le soir. Vous lui direz que vous m'avez fait passer un jour heureux en me parlant de lui. Puis, que je vous ai embrassé comme un vieil ami. Le vieillard m'embrassa. Mais vous ne lui direz pas que j'ai pleuré. D'ailleurs, ajouta-t-il en riant, c'est de joie que je pleure. Et c'est donc vrai qu'il a de la réputation, mon fils. Mais une très grande, je vous assure. Quelle étrange chose! Et qui m'aurait dit cela, quand je le grondais, de ce qu'au lieu de travailler, il était là, battant la mesure avec son pied, et faisant chanter à sa sœur tous nos vieux airs siciliens. Enfin, tout cela est écrit là-haut. C'est égal. Je voudrais bien le revoir avant de mourir. Est-ce que votre ami le connaît aussi, mon fils? Certainement. Personnellement? Personnellement. Mon ami est lui-même le fils d'un musicien distingué. Appelez-le donc alors. Je veux lui serrer la main aussi à lui. J'appelai Jadin, qui vint. Ce fut son tour alors d'être choyé et caressé par le pauvre vieillard, qui voulait nous ramener chez lui et voulait passer la journée avec nous. Mais c'était chose impossible. Il allait à la campagne et l'emploi de notre journée était arrêté. Nous lui promîmes d'aller le voir si nous repassions à Catane. Puis il nous serra la main et partit. À peine eut-il fait quelques pas qu'il me rappela. Je courus à lui. « Votre nom, me dit-il. J'ai oublié de vous demander votre nom. » Je lui dis, mais ce nom n'éveilla en lui aucun souvenir. Ce qu'il connaissait de son enfant même, ce n'était pas l'artiste, c'était le bon fils. « Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, » répéta-t-il deux ou trois fois. « Bon, je me rappellerai que celui qui portait ce nom-là m'a donné des bonnes nouvelles de mon Alexandre Dumas. Adieu, adieu. » Je me rappellerai votre nom. Adieu. Pauvre vieillard. Je suis sûr qu'il ne l'a pas oublié. car les nouvelles que je lui donnais, c'étaient les dernières qu'il devait recevoir. En le quittant, notre guide nous conduisit au musée. Ce musée, tout composé d'antiquités et de fondations modernes. Il se trouva, pour le bonheur de Catan, un grand seigneur riche à ne savoir que faire de sa richesse, et de plus artiste. C'était Don Ignazio de Patarno, prince de Biscarie. Le premier, il se souvint qu'il marchait sur un autre Herculanum, et des fouilles royales commencèrent, faites par un simple particulier. Ce fut lui qui retrouva un temple de Cérès, qui découvrit les thermes, les aqueducs, la basilique, le forum et les sépultures publiques. Enfin, ce fut lui qui fonda le musée et qui recueillit et classa les objets qui en font partie. Ces objets se divisent en trois classes. Les antiquités, les produits d'histoire naturelle et les curiosités. Parmi les antiquités, on compte des statues, des bas-reliefs, des mosaïques, des colonnes, des idoles, des pénates et des vases siciliens. Les statues appartiennent presque toutes à une époque de mauvais goût ou de décadence, et n'offrent de réellement remarquable qu'un torse colossal qui vient, dit-on, d'une statue de Jupiter, Eulétère, une penthésilée mourante, un buste d'Antinoé et une centauresse. Encore ce dernier morceau est-il plus précieux comme curiosité que comme art. Toutes les statues de centaures que l'on a trouvées étant des statues mâles. Et les centauresses n'existant ordinairement que sur les bas-reliefs et les médailles. Les vases siciliens composent, sans contredit, la collection la plus intéressante du musée, en ce qu'ils sont de formes variées à l'infini, et presque tous d'une élégance parfaite. Quant aux idoles, pénates, lampes, etc., c'est ce qu'on voit partout. Les produits d'histoire naturelle appartiennent aux trois règnes de la Sicile et demandent des appréciateurs spéciaux. Ce qui me parut curieux et remarquable pour tout le monde, c'est une collection des laves de l'Etna. Ces laves, beaucoup moins belles et beaucoup moins variées que celles du Vésuve, sont presque toutes rousses ou mouchetées de gris. Cela tient à ce que l'Etna renferme le fer et le sel ammoniaque en quantité beaucoup plus grande que le soufre, les marbres et les matières vitrifiables, tandis que le Vésuve, au contraire, contient ces derniers objets en grande abondance. Enfin, la collection des curiosités consiste en armures, cuirasses, épées sarrasines, normandes et espagnoles, dont quelques-unes sont fort riches et d'un très beau travail. On montrait aussi autrefois un médaillé dans lequel était renfermée une collection complète des médailles de la Sicile. Mais à force de le montrer, le gardien s'aperçut un beau jour qu'il en manquait cinq des plus précieuses. Depuis ce temps, le médaillé est fermé. Du musée, nous allâmes à la cathédrale en traversant la rue Saint-Ferdinand. J'appelai vivement Jadin, il se retourna. « Retenez Milord, lui dis-je. Pourquoi ? Retenez-le d'abord, je vous dirai pourquoi ensuite. » Jadin appela Milord et lui passa son mouchoir dans son collier. « Maintenant, lui dis-je, regardez sur la fenêtre de cet opticien. » Sur la fenêtre de l'opticien, il y avait un chat, dressé à regarder les passants à travers une paire de lunettes. Qu'il portait fort gravement sur son nez. « Peste !» dit Jadin. « Vous avez eu là une bonne idée. Celui-là rentre dans la classe des chats savants et nous aurait coûté plus de 2 pauls. » Milord, en sa qualité de bulldog, était en effet un si grand étrangleur de chats que nous avions jugé utile, on se le rappelle, de prendre des mesures à ce sujet. En conséquence, à partir de Gênes, ville dans laquelle Milord avait commencé à exploiter en Italie la race féline, nous avions débattu le prix d'un chat bien conditionné, et il avait été arrêté avec les propriétaires des 2 premiers étranglés qu'un chat de race ordinaire, gris pommelé, gris blanc ou moucheté de feu, valait 2 pauls au maximum. Étaient exceptés de ce tarif, bien entendu, les angoras, les chats savants, enfin les chats à 2 têtes, ou à 6 pattes. Nous nous étions fait donner un reçu en règle des 2 chats génois. Nous avions fait ajouter successivement à ce reçu les reçus subséquents, de manière à nous faire un titre indiscutable. Toutes les fois que Milord commettait un assassinat nouveau, et qu'on nous demandait pour la victime plus de 2 pauls, nous tirions notre titre de notre poche. Nous prouvions que deux pôles étaient le dédommagement que nous étions habitués à donner en pareil cas. Et il était bien rare, alors, que le propriétaire ne consentât point de l'indemnité dont s'étaient contentées la plupart des personnes à qui nous avions eu affaire. Mais, comme nous l'avons dit, il y avait des exceptions à notre tarif. Et un chat qui portait des lunettes d'une façon si majestueuse devait naturellement rentrer dans les exceptions. Jadin avait donc dit une chose pleine de sens, lorsqu'il avait dit qu'on ne nous ferait payer le chat de l'opticien plus de deux pôles. Et il avait agi avec une louable prudence lorsqu'il avait fait une laisse de son mouchoir. Grâce à cette précaution, nous traversâmes la rue Saint-Ferdinand sans encombre, et sans que Milord eût paru s'apercevoir autrement que par sa captivité d'un instant de notre inquiétude momentanée. En entrant dans l'église, nous le lâchâmes. Il n'y avait plus rien à craindre. L'église est sous l'invocation de Sainte Agathe, qui y est enterrée, comme on le sait. Son martyre fut d'avoir la gorge coupée et tenaillée. Aussi, comme Didon, la sainte a appris à compatir aux maux qu'elle a souffert. Elle est surtout miraculeuse pour les maladies de saints. Une multitude d'ex-voto en argent, en marbre et en cire, représentant tous des mamelles, font foi de son pouvoir sanitaire et de la confiance que la population catanaise a dans la belle et chaste Vierge qu'elle a choisie pour sa patronne. Dans le chœur, de beaux bas-reliefs de chêne, qui datent du XVe siècle, représentent toute l'histoire de la sainte depuis le moment où elle refusa d'épouser Quintilien, jusqu'à celui où l'on rapporta son corps de Constantinople. Les plus curieux de ce bas-relief sont ceux où la sainte est frappée de barres de fer, où on lui coupe les seins, où on la brûle et où, visitée dans sa prison par Saint-Pierre, elle est guérie par lui. Puis vient la seconde période de la légende. Après la martyre, l'élu. Après le supplice, les miracles. Alors, et en suivant toujours les bas-reliefs, on voit la sainte apparaître à Guibert et lui ordonner d'aller chercher son corps à Constantinople. Guibert obéit et trouve son tombeau. Embarrassé alors pour emporter cette précieuse relique, il coupe le cadavre par morceaux et en met un morceau dans le carquois de chacun de ses soldats et le rapporte ainsi jusqu'à Catane sans qu'il s'en égare autre chose qu'un saint qui, heureusement, est retrouvé et rapporté par une petite fille de sorte que la bienheureuse Agathe, à la honte des infidèles, se retrouve au grand complet. Tous ces bas-reliefs sont charmants de naïveté. Personne n'y fait attention, aucun livre n'en parle, nul cicérone ne pense à les faire voir. Et cependant, c'est à coup sûr une des choses les plus curieuses que renferme l'Église. J'oubliais le voile de Sainte Agathe, que l'on conserve dans la cathédrale. Ce précieux tissu, comme on dit dans les tragédies classiques, a le privilège d'arrêter les laves qui descendent de l'Etna. On n'a qu'à leur présenter le voile et le torrent s'arrête, se refroidit et se coagule. Malheureusement, il faut que cette action soit accompagnée d'une foi tellement forte que presque jamais le miracle ne réussit complètement. Mais alors, ce n'est pas la faute du voile, c'est la faute de celui qui le porte. En sortant de l'église, notre guide nous conduisit à l'amphithéâtre dont il est presque impossible de mesurer la grandeur, enterré qu'il est presque entièrement dans la lave. C'est de cet amphithéâtre que fut tiré, comme nous l'avons dit en 1820, l'obélisque qui s'élève sur la place de l'éléphant. Mais les fouilles nécessitaient des dépenses énormes, et l'on fut obligé de les cesser. Au-dessus, dans l'amphithéâtre, se trouve un bâtiment qu'on nous assura être la prison où mourut la sainte. À la porte de cette prison est une pierre qui conserve l'empreinte des deux pieds de femme. Au moment où Sainte Agathe marchait à la mort, Quintilien lui offrit une fois encore la vie, si elle consentait à abjurer et à devenir sa femme. « Ma volonté, répondit la sainte, est plus ferme que cette pierre. » Et la pierre s'affaissa sous ses pieds, dont depuis cette époque elle a gardé la marque. De l'amphithéâtre, nous allâmes au théâtre. Mais pour reconnaître l'un et l'autre, il faut encore plus de foi que pour présenter le voile de la sainte à la lave. Nous avons déjà dit que c'était dans ce théâtre qu'Alcibiade haranguait les Catanais lorsque Catane fut prise par Nicias. Si l'on veut au reste voir de près et dans toute sa terrible variété, l'effet des laves, il faut monter sur une des tours du château Orsini, bâti par l'empereur Frédéric II, roi de Sicile. L'irruption de 1669 a enveloppé ce château comme une île, mais l'océan de feu bâtit vainement le géant de granit. Le géant est resté debout au milieu des ruines qui l'entourent. Nous revenions à l'hôtel et nous comptions manger un morceau avant de visiter le couvent des bénédictins, la seule chose qui nous restait à voir, lorsqu'en regardant autour de moi, je m'aperçus que Milord était invisible. Chaque fois que pareille chose nous arrivait, nous connaissions d'avance les suites de cette disparition. Au bout d'un instant, nous le voyons ressortir par quelques portes ou quelques fenêtres, se léchant le museau, et suivi d'un indigène mâle ou femelle, tenant son chat par la queue, et venant réclamer ses deux paules. Mon premier regard m'apprit que nous étions dans la rue Saint-Ferdinand, et le second que nous étions en face de la boutique de l'opticien. En même temps, j'entendis un sabbat de possédé, derrière un tonneau qui se trouvait à la porte. Je saisis le bras de Jadin et lui montrai la fenêtre où le chat manquait. Il comprit tout à l'instant même, courut au tonneau, ramassa une paire de lunettes qu'il mit à l'instant sur son nez, comme si c'était les siennes qui l'eût égaré, et revint suivi de Milord. Quant au malheureux chat, il était trépassé obscurément dans le coin, où il était imprudemment descendu et où Jadin laissa prudemment son cadavre. Or, nous étions à 7 heures du jour où, comme le disent dédaigneusement les Italiens, il n'y a dans les rues que les chiens et les Français. Personne ne fut donc témoin de l'assassinat, pas même les grues du poète Ibicus. Non seulement l'assassinat resta parfaitement impuni, mais Jadin même hérita des lunettes du défunt. Ces lunettes sont dans l'atelier de Jadin, où il les montre comme étant celles du fameux abbé Méli, l'Anacréon de la Sicile. Il en a déjà refusé sans écus qu'un Anglais lui a offert. Il ne les donnera, à ce qu'il assure, que pour 25 louis.